mais pourtant, ainsi va la vie, comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Paul Makingo. Bonjour, bonjour Jean-Paul.
Bonjour Irène.
Jean-Paul, vous êtes né le 26 septembre 1975 au cœur de l'Afrique à Kinshasa. Vous êtes le dernier d'une famille de 7 enfants. Vous arrivez en France à l'âge de 14 ans. Vous allez au collège de Bellefontaine, au lycée René Bonnet, puis à l'université de Jean Jaurès. Vous obtenez une licence en sociologie et une licence en développement social. Vous partez à Paris, où vous avez une maîtrise en droit et gestion des collectivités. Vous faites divers petits jobs pendant vos études, avant d'intégrer l'éducation nationale en tant que surveillant d'internat à Castelsarrasin. Vous devenez directeur d'une association qui travaille sur la santé des migrants et la promotion de la lutte contre le VIH auprès des publics afrodescendants. Ayant réussi un concours à l'administration pénitentiaire en 2007, vous n'avez pu exercer car l'année suivante, en mars 2008, vous êtes élu à la ville de Toulouse en tant qu'élu municipal. En 2017, pour concilier vos engagements politiques et votre volonté d'indépendance, vous créez votre entreprise, le groupe MBCI, qui travaille principalement en Afrique dans l'installation, la vente et l'acquisition des équipements électriques et solaires. Nous parlerons bien évidemment pendant cette émission de votre engagement citoyen et de votre engagement politique. Mais avant tout cela, Jean-Paul, racontez-nous vos premières années de vie en Afrique au sein de cette famille nombreuse.
Alors, disons que j'ai eu une enfance heureuse. Parce que, vous savez, la notion de famille en Afrique n'est pas forcément la même qu'ici. On est peut-être 7 enfants, mais on était toujours une vingtaine dans la maison parce qu'il y avait des cousins, il y avait des tantes. Donc, j'ai été élevé par tout un groupe. Bien souvent, le père donne le cadre et c'est lui qui finance les études et tout le reste, mais c'est tout le monde qui s'occupe de l'éducation. Donc, j'ai eu une enfance heureuse, une enfance assez cadrée quand même parce que j'avais une mère qui était stricte. Mon père était plus dans la réflexion, mais ma mère était assez stricte. Donc, je dirais de cette enfance, je retiens beaucoup de bons souvenirs parce que j'ai quitté l'Afrique jeune, mais je suis très attaché à l'Afrique et j'ai beaucoup de souvenirs de ma vie en Afrique, de comment ça se passait en Afrique et même... je regrette quelque part d'être parti si tôt parce que cette Afrique, elle est en moi. Donc, ça fait partie de moi, comme aussi aujourd'hui, je pourrais dire, Toulouse fait partie de moi.
Pourquoi vous êtes parti si tôt? Qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à 14 ans à Toulouse?
Alors, j'ai une trajectoire de vie assez atypique. Donc, mon père est diplomate congolais. Donc, son métier fait qu'il voyageait beaucoup. Et il a amené sa famille avec lui. Et en 89, on a quitté donc la RDC pour aller en Roumanie. Si vous vous souvenez, on est arrivé en juillet 89. En décembre 89, il y a eu les événements en Roumanie avec Ceaușescu. Suite à ces événements, il a dû quitter la Roumanie. Il a été en Israël. On a donc changé de poste. Il est parti en poste en Israël. Donc, on est allé en Israël. Donc, j'ai vécu à Tel Aviv. J'ai commencé les études à Tel Aviv. Et un an après, en janvier 91, la guerre du Golfe, la toute première, a commencé. Donc le 24 janvier 91, quand il y a eu les premiers scuds et tout le reste, on a été évacués. Donc j'ai quitté Israël et je suis venu en France. Alors j'avais une cousine qui a vécu chez nous quand j'étais jeune, qui vivait à Toulouse, au Mirail. Et ma mère a dit, bon écoute, va au moins, on est au mois de janvier, tu finis l'année scolaire chez ta cousine et si ça se calme ici, tu reviens. Donc, je suis allé à Toulouse, donc chez ma cousine.
Mais votre famille était restée en Israël ?
Mon père était en Israël, ma mère, elle était repartie au Congo.
D'accord.
Donc, je suis venu à Toulouse, j'ai fini l'année scolaire au collège de Bellefontaine et ma mère avait très peur parce que c'est l'époque où il y avait beaucoup d'attentats en Israël. C'était Isaac Shamir, le Premier ministre. Et ma mère a dit, bon, vu l'ambiance en Israël, je préfère que tu restes en France. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances. Je suis arrivé en France et à Toulouse. Il n'y avait rien de prémédité.
Donc, vous arrivez chez votre cousine.
Voilà.
Vous changez de pays.
Voilà.
Et en plus, sans vos parents.
Voilà,
alors
sans
que vous
parents.
Êtes un préadolescent, 14
voilà.
ans, on est très, très jeune.
Donc, je suis resté
très
chez ma cousine et
ça,
j'ai fait le collège.
Ça a été difficile ?
Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, à 14 ans, on a une vie d'ado, on aime des choses. À 14 ans, on a des besoins. À 14 ans, et quand on vit pas chez ses parents, c'est pas forcément la même chose. On peut très bien être avec vous, vous avez un lieu où dormir, je n'étais pas à la rue, mais ce n'est pas vos parents. Il y a quand même une limite. Les gens, même s'ils sont de votre famille, mais eux aussi, ils ont leurs enfants. Et puis, ma cousine n'était pas spécialement riche. Donc, du coup, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Et elle habitait au Mirail. Donc, je suis resté chez elle le temps du collège. Après, je suis allé au lycée René Bonnet et au lycée Jean Jaurès de Carmon, que vous n'avez pas cité dans ma biographie, le lycée Jean Jaurès, avant d'aller à l'université Jean Jaurès. Donc, quand j'ai eu le bac, j'ai pris un appartement, donc je suis devenu un peu indépendant, et je suis allé à l'université du Mirail comme ça.
Mais revenons, là, quand vous arrivez à Toulouse, que vous avez 14 ans...
Ça a été le choc culturel.
Vous étiez quel style de petit garçon ? Vous étiez un petit garçon timide, ouvert ? Enfin, j'imagine qu'en ayant voyagé comme ça, vous aviez certainement une sacrée ouverture d'esprit déjà.
Alors, l'ouverture d'esprit, je pense que je l'avais. Et je n'ai jamais été timide comme garçon. J'étais plutôt le contraire, plutôt le meneur, toujours à faire des bêtises, toujours à faire les 400 coups. Je pense que j'étais plutôt ce type de jeune-là. Et c'est d'autant plus difficile quand vous n'êtes pas chez vos parents. Parce que quand vous êtes sage, vous rasez les murs, quand vous n'êtes pas chez vos parents, c'est lisse. Mais mon type de jeune, ça posait des problèmes. Et en plus, ma cousine, elle avait des enfants qui étaient en bas âge, donc elle a eu un ado à la maison, elle ne savait pas trop comment le gérer, entre l'autorité qui ne marchait pas. Et donc forcément, c'est un peu difficile. Après, il y a eu un choc aussi parce que en Afrique et chez mes parents, j'étais dans une classe moyenne supérieure en Afrique. Et je suis arrivé à Toulouse, au Mirail, dans une situation où j'ai découvert autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai un parcours atypique. Parce que quand je discute avec les gens qui savent que j'ai grandi au Mirail, du coup, ils imaginent le cas classique de l'immigré qui est arrivé, si pas en bateau, dans une situation compliquée et tout le reste. Mais au fait, moi, ce n'est pas du tout ça. Je suis venu pour faire mes études en France, à la base. Et du coup, je me suis retrouvé au Mirail. J'ai vécu des belles années. J'ai beaucoup d'amis, d'ailleurs, au Mirail. Je me rappelle, j'ai vécu à la Rainerie, précisément, pas loin du métro. Et jusqu'à présent, j'ai des amis à moi qui vivent toujours là-bas. Et quand j'y vais, c'est avec un grand plaisir parce que je retrouve ce quartier où j'ai vécu mes quatre premières années à Toulouse. J'ai vécu au Mirail avant d'aller dans l'autre quartier.
Vous étiez bon élève ?
Alors, ça dépend. J'étais plutôt ce genre d'élève qui travaillait pour avoir la moyenne. Je n'ai jamais été brillant au lycée. Et plutôt dans la réflexion, j'aimais bien des cours quand j'étais au lycée, comme la philo, des cours comme ça, mais je n'ai jamais été un élève brillant. J'ai été meilleur à l'université. Peut-être que ça correspondait plus à ma façon d'être. Donc,
une certaine indépendance.
Voilà. Mais au lycée, même au collège, alors si quand j'ai revu mes bulletins, alors si je disais à ces profs-là que j'avais un bac plus 4 ou que j'étais adjoint au maire de la 4e ville de France et tout le reste, ils vont tomber de haut parce que j'étais vraiment un élève. Non, j'ai mis du temps à prendre conscience qu'il fallait travailler pour... J'avais de l'ambition, mais je ne travaillais pas nécessairement pour atteindre mes objectifs.
Pourquoi ce petit crochet par Paris là, pour la fin de vos études ?
Alors,
il n'y avait pas ça
Ma maîtrise, je l'ai eue très tard. Donc, après mes deux licences, j'ai commencé à travailler.
D'accord.
Ma maîtrise, je l'ai eue dans les années 2010, par là.
Oui, d'accord.
Ouais, je l'ai eue très tard, ma maîtrise. C'était vraiment, j'avais envie de faire ça. J'étais déjà élu et tout le reste.
Donc, à 18 ans, vous prenez un appartement.
Voilà.
Là, c'est le début de votre vie d'homme.
Voilà.
Alors que vous n'êtes qu'un jeune homme.
Voilà, tout à fait.
Comment ça se passe ? Donc, vous faites des petits boulots pour pouvoir payer vos études et votre appartement, bien sûr.
Il y a un restaurant très connu, d'ailleurs, à Toulouse, le Mayombe. J'y ai travaillé à Saint-Cyprien. J'y ai travaillé en tant que plongeur, serveur. J'ai fait tout ce qu'on peut faire, cuisinier. J'ai fait tout ce qu'on peut faire dans un restaurant. Après, l'été, j'allais bosser aux pommes, le maïs et tout le reste pour avoir assez d'argent pour payer mon année universitaire, en sachant que ça correspondait à une période où il y a eu la crise au Congo. Donc, mon père aussi s'est retrouvé dans cette crise au Congo avec une crise politique et tout le reste. Donc, ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir supporter mes études et tout le reste. Donc, je me suis pris en charge très tôt. À partir de 20 ans, par là, j'ai commencé à me prendre en charge par le travail et mes études, j'ai tenu à les finir quand même.
Alors, en plus, 20 ans, c'est l'année où vous êtes devenu papa.
Voilà, donc alors j'ai trois enfants. J'ai un grand garçon qui a 23 ans et j'ai un deuxième qui a 17 ans et une petite qui a 7 ans. Donc, ça responsabilise assez tôt.
Oui, parce que c'est pas commun quand même d'être papa à 20 ans.
Oui, j'étais un peu précoce, ouais, faut dire.
Avec en plus toujours étudiant.
Toujours étudiant, oui. Et du coup, ça crée plus de difficultés. Et c'est pour ça que la cause étudiante d'ailleurs me touche. J'étais à l'UNEF et tout le reste. Ça cause vraiment des difficultés à boucler même la licence. Parce que je me rappelle une fois, je suis venu passer un oral. Et j'avais la tenue, parce que je travaillais dans une station-service à cette époque, et j'avais la tenue marquée Shell, et les deux profs m'interrogeaient et tout le reste, et il y en a un qui... j'ai vu vraiment qu'il avait de la peine. Il me disait, mais vous travaillez? Je lui expliquais que oui, je suis venu, parce qu'après, je dois vite aller travailler, et ça l'avait marqué. Et d'ailleurs, on est amis actuellement, je lui ai rappelé cette anecdote une fois.
Et votre femme, elle travaillait aussi à cette époque-là? Elle était étudiante?
On s'est connu, elle était étudiante. Elle était étudiante, donc elle est guadeloupéenne et moi je viens du Congo. Donc du coup, c'était un peu un carrefour Toulouse parce qu'elle aussi, elle est venue à Toulouse pour ses études. On s'est connus à cette période-là et donc on alternait tous les deux, job. Mais je reconnais quand même que...
Ça a dû être un démarrage de vie quand même assez difficile.
Voilà, parce que du coup, elle, à un moment même, elle a arrêté ses études. Et moi, j'ai continué mes études, donc ça a dû être assez difficile, mais bon, on s'en sort plutôt bien. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, donc ça va.
Oui, c'est un démarrage difficile, mais pour une histoire qui...
Comme un diesel.
Mais voilà, c'est ça, mais pour une histoire qui dure. Quel a été votre premier vrai emploi après vos études ?
L'éducation nationale. Alors,
vous êtes resté longtemps ?
Je suis resté 4 ans. Comme surveillant à l'internat, mais j'aime bien cette étape de ma vie parce que ça m'a ouvert l'esprit sur le service public et sur la possibilité que j'avais d'avoir des concours, sur la possibilité que j'avais de faire quelque chose d'intéressant. Parce que j'adore enseigner, j'adore être au contact du public, j'adore former les gens. Donc ce travail-là à l'éducation nationale, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Et d'ailleurs, j'avais commencé à passer des concours de prof d'école, de plusieurs concours de la fonction publique à travers ce travail à l'éducation nationale à Castelsarrasin.
Jean-Paul, quelle a été la place de l'éducation religieuse dans votre famille ?
Alors moi, j'ai des parents qui sont très croyants. D'ailleurs, ils sont bien contents d'être en Israël, d'avoir vécu en Israël parce qu'ils sont très croyants catholiques. Alors j'ai eu une éducation que je dirais chrétienne. Une éducation de, je suis de culture chrétienne catholique. À titre personnel, bon, j'ai eu le baptême, la communion, la confirmation, donc j'ai fait toute la trajectoire du catholique. Mais je ne suis pas marié à l'église, par exemple. J'ai un mariage civil. Parce que, à titre personnel, donc, plus je vieillis, je dirais, moins j'ai tendance à être croyant. Je suis plutôt, je dirais, agnostique. Je suis plutôt de cette tendance-là. Mais bon, je ne le dis pas à ma mère, hein. Je sais qu'elle ne va pas écouter cette émission, parce que vous imaginez si ma mère savait que je n'étais pas croyant, mais oh là là, non, mais la pauvre.
Vous avez donné, à l'âge de 20 ans, quand vous avez eu votre fils, vous l'avez baptisé, vous lui avez donné une éducation.
Alors,
également.
Je pense que tous mes enfants sont baptisés.
D'accord.
Parce que, c'est naturel. Vous savez, le baptême, c'est presque quelque chose de naturel. C'est même plus religieux dans les gens de culture chrétienne. On baptise parce qu'il faut baptiser. On se marie à l'église parce que ça fait partie d'un rite, mais ça n'a pas de signification particulière pour beaucoup. Et moi, je crois que oui, je les ai baptisés parce qu'en plus, je crois que l'éducation chrétienne n'est pas si mauvaise que ça, à condition d'en fixer les limites. À condition d'en fixer les limites et de savoir que ça reste des valeurs. Faire le bien, ne pas faire le mal et tout le reste. Moi, j'ai appris ça quand j'étais petit. Et ça m'a aidé dans ma vie d'adulte de pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais cela dit, mes enfants, je leur laisse quand même ce libre arbitre-là de choisir eux-mêmes, de me dire, papa, j'ai envie de faire ça. S'ils ont envie d'aller à l'église, ils iront à l'église. S'ils n'ont pas envie, ils n'iront pas à l'église. Moi, le dimanche matin, j'aime bien dormir. Ben, je dors le dimanche matin.
Jean-Paul, je vous propose tout de suite une première pause musicale. Vous avez choisi une chanson de Michael Jackson. Je vous laisse en donner le titre. Nous allons l'écouter et tout de suite après, nous en parlerons.
Ouais, donc c'est Heal the World de Michael Jackson. Thank you.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
You and for me and the entire human race.
C'est vraiment une belle chanson.
Oui, c'est une très belle chanson et j'aime bien Michael Jackson parce que je crois que c'est un artiste incompris, mais c'est quelqu'un quand même qui a révolutionné la musique, qui a révolutionné la musique, je dirais, qui était un peu afro. Il a réussi à la rendre populaire à un niveau où on ne le voyait plus comme un artiste afro. On voyait comme un artiste pop, comme un artiste rock et tout le reste. Et j'aime bien ce côté-là. En dehors de ça, cette chanson en particulier, quand vous voyez le clip, il évoque un peu toutes les misères qu'il y a dans le monde et tout le reste. Et ça, c'est, malheureusement, ça continue encore. Et c'est un des plus gros combats que nous devons mener actuellement, quoi. Que ce soit les artistes, les politiques ou monsieur tout le monde.
Alors justement, je rebondis là-dessus. À quand remontent vos engagements et citoyens et politiques? Comment ça a démarré?
Alors, ça a démarré à l'université. Non, déjà avant l'université. Alors, il y a une chose, j'ai remarqué de la seconde. À la terminale, j'ai toujours été, par exemple, délégué de classe.
Oui.
J'ai été aussi représentant de Midi-Pyrénées au Conseil national de la vie lycéenne. C'était François Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Donc, j'ai toujours eu ce côté...
cet intérêt pour les autres.
Voilà, pour les autres. Et puis après...
Pour la collectivité.
Voilà, pour la collectivité. Et puis après, j'ai toujours eu envie de faire des choses. Parce qu'il y a aussi ce côté narcissique quand même dans la politique et dans tout le reste. Et l'engagement militant, je dirais, c'est vraiment arrivé à l'université. À l'université, on contacte avec les amis de l'UNEF. Donc à l'époque, l'UNEF était séparé. Il y avait l'UNEF-ID et l'UNEF-SE. Et moi, c'était à l'UNEF-ID. Avec pas mal d'amis d'ailleurs, et actuellement il y en a même une avec qui je militais beaucoup, qui travaille à l'Élysée, qui est conseillère presse de Macron, donc je salue quand même la prouesse, mais c'était une amie à moi à l'UNEF. Donc au Mirail, j'étais un des responsables de tendance, parce qu'à l'UNEF c'est divisé pas en motion mais en tendance, et avec des amis à Paris, c'est comme ça qu'est née cette envie de militer. Et de l'UNEF, je suis passé au MJS, parce que souvent, on retrouvait les mêmes personnes, donc au mouvement des jeunes socialistes. Donc, je suis rentré au PS par la jeunesse. Après, je suis rentré au parti en lui-même, au Mirail. Donc, il y avait une section au Mirail qui était assez dynamique, avec des militantes comme Claude Touchefeu et tout le reste. Donc, c'est avec elle qu'on a commencé vraiment à apprendre ce que c'était la politique. Et de là, je suis toujours resté au PS depuis que je suis rentré en 93, je crois, hein, depuis ce passage-là. Je suis toujours resté fidèle au Parti Socialiste.
Et encore aujourd'hui.
Et encore aujourd'hui, je reste fidèle au Parti Socialiste. C'est dur.
Oui, mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est dur de...
Mais pour l'anecdote, je suis rentré au PS en 93. C'était très dur parce qu'on venait de perdre. C'était Balladur, le Premier ministre. Et là, le PS aussi avait pris une sacrée claque. Et je me rappelle, la plupart des députés socialistes avaient perdu. Donc, je suis rentré au PS dans une période difficile. Donc, c'est pour dire que c'est un choix de cœur. Ce n'est pas un choix opportuniste. Parce qu'en 1993, celui qui était opportuniste ne venait pas au PS. Et là, on m'a fait des propositions d'aller ailleurs. Mais c'est au PS que je me sens bien. C'est au PS que j'ai grandi politiquement. Donc, je vais essayer de reconstruire le PS avec ce qui reste.
J'aimerais qu'on développe ces années politiques jusqu'à ce que vous soyez élu à la municipalité de Toulouse. Je pense qu'on peut aussi le dire, vous êtes le premier noir à avoir été élu à Toulouse. Moi, quand j'ai lu ça dans votre bio, je me suis dit, mais est-ce qu'on est au 21e siècle? Ça me paraît hallucinant que vous qui n'avait que 43 ans, vous avez été le premier. Enfin, je ne sais pas, dans mon esprit, il y en avait eu avant vous, ça me paraît hallucinant.
Effectivement. Disons qu'à côté de mon militantisme politique au Parti Socialiste, j'étais aussi militant dans pas mal d'associations. On a pas mal lutté, par exemple, pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. J'ai été aussi parmi les gens qui ont soutenu le CRAN au départ, quand ça s'est créé au tout début. J'ai été dans les milieux associatifs ici, donc très engagé au niveau de plusieurs combats qu'il y a eu contre... C'était principalement les discriminations. Je travaillais beaucoup sur ces sujets-là et un peu les droits humains avec les personnes sans papier et tout le reste. Et le travail que j'avais eu à accomplir comme directeur d'association à l'association Cap Santé, où on travaillait avec les migrants. Alors, pourquoi c'était axé sur les migrants et les personnes donc afro-descendantes? Parce qu'au fait, je n'ai pas les nouveaux chiffres, mais dans ces années-là, début des années 2000, les populations africaines étaient parmi les populations les plus touchées par le VIH. On parle des nouvelles personnes qui sont atteintes du VIH. Donc, il fallait travailler sur les comportements, il fallait des campagnes spécifiques pour ce public-là. Donc, on m'avait pris comme directeur de cette association et on allait dans les lieux de vie où se rencontraient les Africains, les Antillais et tout le reste, pour faire des campagnes, on essayait de faire des magazines dans différentes langues, on essayait de faire des pièces de théâtre, on essayait de leur apporter donc, tout ce qui est information sur les questions VIH et MST. Donc ça aussi, ça a augmenté ce côté lutter contre l'injustice. Quand Pierre Cohen a eu quand il a gagné les primaires, parce qu'il y avait une primaire entre Pierre Cohen, Nicole Belloubet et d'autres candidats pour être le candidat socialiste au municipal. Et moi, comme d'autres, parce que je faisais partie d'un groupe d'amis, avec Romain Cugive, avec d'autres qui sont toujours élus, on faisait partie d'un groupe d'amis qui avions soutenu Pierre Cohen quand il faisait les primaires. Et l'ayant soutenu, donc Pierre Cohen nous a proposé de venir avec lui sur sa liste. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur la liste de Pierre Cohen. Je ne savais pas que j'allais être adjoint au maire. J'espérais être conseiller municipal, du moins. Et j'ai travaillé sur les questions de lutte contre les discriminations dans le programme, sur les questions d'égalité au plus large sur le programme. Et quand il a été élu, alors c'est marrant parce que quand on a fait la liste des adjoints, il y avait deux hommes principalement de la diversité. Il y avait Kader Arif et moi. Kader Arif était député européen. Donc ça faisait trop aussi, il était député européen et adjoint au maire. Donc du coup, j'étais le deuxième. Et alors là, et c'est pour ça que j'aime bien aussi Pierre Cohen, parce que c'est quelqu'un de juste. Quand on a fait une réunion, il a dit, écoutez, j'ai 26 adjoints, mais ils sont tous pâles. Et ça ne me convient pas. Il faut qu'on mette de la diversité. Donc du coup, je n'étais pas l'un des premiers de la liste sur les 69. J'étais plutôt, je ne me rappelle plus, j'étais 33e, je crois, sur la liste. Et même moi-même, je ne pensais pas être adjoint. Même mes amis avec qui on était, parce qu'on était un petit groupe, on ne pensait pas que j'allais être adjoint. On pensait même à un autre copain. Et il m'appelle un jour pour me dire, ah, tiens, Jean-Paul, voilà, tu as travaillé sur tel sujet. Est-ce que ça te dit d'être adjoint au maire? Ben, j'ai dit oui, forcément. Ça, et puis ça fait plaisir. Et quand je suis arrivé, et il voulait me proposer d'être adjoint au maire pour faire une délégation très intéressante, donc, qui était en lien plutôt avec le commerce et tout le reste. Et moi, je lui ai dit non, je préfère travailler sur diversité et égalité. Alors Pierre me dit, mais non, ça m'embête que tu fasses diversité et égalité, parce que t'es le seul black de la liste. Si je te mets à la diversité, les gens vont dire, on l'a mis là parce qu'il est noir. Moi, j'ai dit à Pierre, justement, non. Ça, c'est un combat qui me touche. C'est un combat que je fais depuis 10 ans, je mène ce combat-là. Donc, avoir mon premier mandat sur des sujets qui me parlent, pour moi, c'est vraiment une réussite. Il a dit, ben, écoute, si c'est comme ça, OK. C'est comme ça que je me suis retrouvé adjoint à la diversité et égalité. Mais pour ne pas faire que ça, il m'a rajouté, donc je me suis retrouvé maire de quartier, donc je m'occupais de tout le 31-500, avec 76 000 habitants. J'ai fait aussi la police administrative, donc la gestion de toutes les autorisations pour les bars, les restaurants, les discothèques au niveau de la ville, 2000 établissements à peu près. Je m'occupais de l'état civil et je m'occupais des cultes.
C'est énorme.
Voilà, donc j'avais une très grosse délégation. Mais la plus emblématique, je dirais, c'était diversité, égalité, parce qu'Obama avait été élu à la même époque, donc on ne parlait que de ça. Donc les gens n'ont retenu que Jean-Paul Makiengo, diversité, égalité, alors que c'était 15% de ce que je faisais réellement dans mon mandat municipal. Alors, ça a été très bien parce que je pense avoir fait des bonnes choses. Je pense avoir réalisé des choses dont je suis fier, comme l'espace des diversités et de la laïcité. qui est un bâtiment municipal où on peut aujourd'hui recevoir tous les publics discriminés à travers des permanences d'accès aux droits. Il y a un centre LGBT pour les publics qui n'avaient pas ce centre-là, qui n'avaient pas de lieu où se retrouver. Donc, j'ai travaillé à la création de ce centre LGBT. On a monté une commission de droits des femmes avec ma collègue Madeleine Dupuis. Donc, tout ce travail-là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de... Je dirais, par rapport à mon passé militant, ça a été vraiment quelque chose de très important. J'ai fait une stèle pour l'abolition de l'esclavage, j'ai fait une stèle pour le génocide rwandais. C'est des choses qui m'ont parlé en tant qu'élu. Et c'est des choses dont je suis fier en tant qu'élu.
Alors donc, ce mandat était de 2008 à 2014. Pourquoi le choix de ne pas vous représenter à la région en 2015 ?
Alors, j'avais eu donc de 2008 à 2014, j'ai été élu à la municipalité. Et de 2010 à 2015, j'étais élu au conseil régional. Donc, j'avais eu les deux mandats, je cumulais les deux. Alors, quand on a perdu la municipalité en 2014, il me restait mon mandat régional. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la fusion des régions. Donc, la région Midi-Pyrénées n'est plus qu'elle était. Elle était un peu plus grande. Martin Malvy avait annoncé qu'il partait. Il y a eu Carole Delga, qui était notre collègue, donc qui était candidate. Et moi, j'étais à un carrefour de ma vie, quelque part. Parce que la perte du mandat municipal, ça m'avait quand même fait un choc et ça m'avait réveillé sur d'autres choses aussi. J'avais une société que j'ai créée depuis 2010.
Oui, c'est une erreur de ma part, ouais, et vous 2010. Avez raison de le rectifier, parce qu'en introduction, quand je vous ai présenté, j'ai dit qu'en 2017, pour concilier vos engagements politiques et votre volonté d'indépendance, vous aviez créé l'entreprise, mais ce n'était pas 2017,
ouais, c'était en 2010.
C'était 2010.
Et je n'avais pas le temps de m'occuper de ma société, et quand on a perdu le mandat municipal, je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée, donc financièrement et d'un point de vue professionnel. Et je me suis dit, bon, j'ai ma société, je dois m'y mettre. Donc, j'ai commencé des petits voyages déjà avec l'Afrique pour travailler, pour voir, pour prospecter de la clientèle et tout sur le domaine du solaire. Et après, il y a eu la fin du mandat régional. Et je me suis posé la question, est-ce que tu dois continuer ton mandat régional ou peut-être essayer de faire autre chose pendant un certain temps, professionnellement, pour essayer de faire autre chose. Et puis après, la politique, ça ne s'arrête jamais. Parce que moi, je n'étais pas élu parce que ça faisait plaisir d'être élu. Mais pour moi, un mandat, ça avait un sens. Donc, j'ai décidé de ne pas me représenter. Et un peu avant ça, en janvier 2015, j'ai eu d'ailleurs des lettres de menace, une lettre de menace arrivée à la région où on me traitait de... Une lettre assez raciste où on me traitait de tous les noms. Et tout ça accumulé, je me suis dit, bon... Tu te recentres sur toi, tu travailles pour ta famille, pour tes enfants pendant quelques temps. Et la politique, tu en feras toujours. De toute façon, je n'ai pas arrêté la politique. Donc, du coup, j'ai fait un repli.
Mais sans l'avoir arrêtée, elle est en tout cas un petit peu mise entre parenthèses.
Voilà, exactement. Donc, j'arrête pas la politique. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est sur le plan professionnel, mon entreprise. Et j'ai eu raison de m'y mettre parce que là, ça commence à prendre...
Alors, on reviendra justement sur votre vie professionnelle d'aujourd'hui, mais vous dites que la politique reste quand même très présente, même si, pour les raisons qu'on a évoquées, elle est entre parenthèses. Quel regard vous portez sur la municipalité d'aujourd'hui ?
Alors, sur les municipalités, à part d'être vraiment un initié, c'est très difficile d'avoir un avis. Moi, je vois, j'écoute des Toulousains me donner un avis à gauche et à droite. Mais quand on sait réellement comment ça marche, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont inaugurées maintenant que nous avons pensées, avec Pierre Cohen et tout le reste, mais c'est inauguré maintenant. Et je me rappelle, par exemple, l'année où on a perdu, vous savez, les illuminations de Noël et tout, c'est des contrats sur 3 ans. L'année où on a perdu, le contrat courait encore. En décembre, il y a un commerçant qui me dit « Vous voyez, depuis que la municipalité a changé, les illuminations, elles sont meilleures. On voit qu'il y a du changement. » Alors que, bon, moi, je savais que c'était un contrat qui courait. Donc, il y a des choses que nous, en tant que, je dirais, anciens élus, on n'a pas la même vision forcément que le Toulousain qui regarde, qui se plaint. Je me rappelle Jean-Luc Moudin qui avait fait une grosse campagne contre le BHNS. Qui était le bus à haut niveau de service que nous devions faire à l'Ardenne. Mais aujourd'hui, les L1, L2, L3, c'est exactement le Linéo, c'est exactement le BHNS. Les travaux, c'est pareil. Les gens qui, à l'Ardenne, étaient vent debout contre nous parce qu'on devait installer un Linéo, aujourd'hui, ben, ils ont des travaux depuis un an ou deux. Et ces gens-là, s'ils étaient cohérents, ils diraient à Jean-Luc Moudin que vous nous avez trompés. Donc, pour dire que, quelque part, Je dirais, au niveau de la ville de Toulouse, c'est une ville qui fonctionne correctement, parce que c'est une ville qui a beaucoup d'employés, c'est une ville qui a une bonne technicité. Après, au niveau politique, il y a eu du recul sur certaines choses. Je regrette, par exemple, qu'au niveau de la municipalité, il n'y a plus la gratuité totale à la cantine scolaire. Ça, c'était des décisions que nous avons prises. Ce n'est pas que des mesures de gauche, mais c'est de la justice sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'envoient pas leur enfant à la cantine parce qu'ils n'ont pas les peut-être 2 ou 3 euros qu'il faut payer. La gratuité des transports. Alors, on peut estimer, aujourd'hui, moi, Jean-Paul Makengo, je peux vous dire que 10 euros, c'est rien. Mais il y a des gens, moi, quand j'avais 20 ans, 10 euros, donc c'était 67 francs, c'était beaucoup.
Bien sûr.
Donc, quelque part, il y a des petites mesures comme ça qui sont prises par la municipalité actuelle qui me rappellent quand même que nous, quand nous étions là, on avait ce souci de prendre des décisions justes. On avait ce souci que tous les Toulousains puissent profiter un peu de leur ville. On n'aurait jamais imaginé sous Pierre Cohen avoir même à la fête de la musique un concert fermé, place du Capitole, avec des gens pour entrer, fallait une autorisation et tout le reste. Donc, quelque part, je dirais qu'il y a des changements à ce niveau-là. Et, mais sinon, qu'est-ce que je peux dire après ? J'espère qu'on reviendra aux affaires, qu'on pourra exposer ou finir certaines choses qu'on n'a pas pu faire.
Mais... On reviendra aux affaires, ça veut dire que vous pensez revenir quand même, avoir refermé votre parenthèse pour 2020 ?
Non, alors je ne sais pas aujourd'hui si je serai parmi les colistiers parce que de 2020. Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas envie d'être candidat. Donc ça, au moins, ça s'éclaircit et puis ça ne fâche pas mes copains. Et je n'ai pas envie d'être candidat. Je ne sais pas si je serai parmi les colistiers, mais j'espère, oui, j'espère que la gauche reviendra au Capitole, oui. Quelle gauche, je ne sais pas. J'espère qu'elle sera socialiste ou le plus rose possible, mais j'espère vraiment qu'on reviendra aux affaires. Parce que, alors, Pierre Cohen, je pense qu'il n'était pas assez compris par les Toulousains, ce qui est dommage parce que c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui avait vraiment le souci de cette ville. Après, peut-être qu'on a eu nos torts aussi. Peut-être que certains ont vu de l'arrogance. Parce que, je dirais, on a eu peut-être ce tort quand les gens de gauche de penser que... ce que nous faisons comme chose, c'est tellement évident pour les gens qu'ils ne peuvent que l'accepter. Alors que non. Moi, quand j'étais maire de quartier, je le voyais bien. Quand vous avez un technicien de la ville qui vous dit « Cette rue, on doit la mettre en sens unique parce que ça va décongestionner le quartier, parce que ça arrange la circulation. » Mais les habitants ne le comprennent pas parce que celui qui a l'habitude de rentrer par l'autre bout, vous avez beau lui expliquer avec un technicien, avec une logique, il ne le comprendra pas. Et je pense qu'on a, eu aussi cette faute-là de ne pas assez expliquer ce qu'on faisait et peut-être de ne pas assez aller vers les Toulousains. Donc là, je l'assume en tant que maire de quartier. Peut-être que notre modèle n'était pas le meilleur parce qu'on nous reproche des choses qu'on faisait finalement. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Pierre Cohen, mais il le faisait. Sauf que Pierre Cohen, il avait peut-être cette qualité de faire confiance et de croire que le fond emportait sur la forme. Alors qu'en politique, la forme, c'est très important.
Jean-Paul, tout de suite, je vous propose la deuxième pause musicale. Et alors, votre choix s'est porté sur Papa Wamba.
Oui.
Le titre, c'est Esclave. Mmh. On écoute et vous nous parlerez de ce choix tout de suite après.
OK.
Thank you.
Ce choix.
Alors ce choix, déjà à la fin, la dernière phrase qu'il dit, quand il dit « Moi naya Africa », c'est « Enfant de l'Afrique ». La chanson « Esclave », au fait, il est en train de dire simplement, c'est qu'il y a des frères et des sœurs à nous qui sont partis, qu'on est venu chercher, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais au fait, il va au-delà de l'esclavage dans la chanson, il parle de la souffrance un peu qu'il y a en Afrique, il parle de Nelson Mandela, il parle de Bob Marley, il parle... En gros, il utilise l'esclavage pour aborder toutes les souffrances, la colonisation et tout le reste qu'il y a eu en Afrique et qui font que l'Afrique s'est retrouvée dans une situation où il y a une image aujourd'hui de mort, désolation et misère. Et j'ai bien aimé cette chanson de Papa Wemba parce que lui-même, c'est un artiste très controversé, dans le sens où, comme beaucoup d'artistes, il a une vie de débauche, comme il a une, qui allait de pair avec une carrière musicale en Afrique. Il était connu comme un des plus grands artistes africains. Et cette chanson, pour moi, ça me renvoie un peu à mon combat contre les discriminations, contre l'esclavage, parce que ma femme, par exemple, qui est des Antilles, donc mes enfants, à 50%, descendent de l'esclavage. Mes enfants, ma femme est une petite fille d'esclave. Mes enfants donc, sont arrière, petit-fils d'esclave. Donc ça montre bien...
Alors pour vous suivre depuis plus d'un an sur Facebook, pour tout vous dire, oui. Je sais que c'est un sujet, vous publiez, c'est récurrent chez vous.
Oui, hein, tout à fait, sur l'esclavage. Sur,
l'esclavage, vous...
Ouais, tout à fait, c'est un
on
sujet...
On sent que vous êtes extrêmement touché par, par
c'est,
cela.
C'est un sujet qui me parle beaucoup et je trouve que beaucoup de gens ont tendance à dédramatiser. Et ce qui est compliqué en France pour tous les combats, que ce soit la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations, quand vous faites des constats, les gens ont tendance à directement avoir ce réflexe de dire « Ah, mais pourquoi vous faites des revendications? Pourquoi vous abordez ça? Il faut arrêter d'en parler. » Moi, quand je parle de l'esclavage, ce n'est pas pour demander à tous les blancs de la terre de venir s'excuser. Non, j'en parle parce que ça fait partie de notre passé à nous tous. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas descendant direct d'esclaves et vous, vous n'êtes pas descendante d'armateurs. Mais quelque part, ça fait partie de notre passé commun. Et il faut l'aborder, il faut en parler parce que vous imaginez mes enfants qui sont donc descendants d'esclaves, en savent plus sur l'esclavage aux États-Unis qu'en France. Si moi, leur père, je ne fais pas ce travail-là, un jour, ils vont le découvrir eux-mêmes dans un bouquin. Et ça fera des gamins, s'ils sont peut-être sérieux, ils vont se dire, ils vont prendre du recul, mais s'ils n'ont pas ce recul-là, ça deviendra qui ? Des extrémistes qui vont dire, on nous a caché ça, voilà, nos ancêtres ont souffert. Donc, du coup, on a souvent des jeunes qui tournent mal par manque d'informations, par manque, je dirais, d'apport culturel sur ces choses-là.
Votre fils qui a 22 ans, vous le sentez attiré par la politique ?
Oh, pas du tout.
Pas du tout, là, c'est pas son pas truc. Du tout.
Chez moi, j'ai l'impression que je suis le seul qui... déjà, quand j'arrive au salon, on dit, bon, écoute, si tu veux mettre une chaîne info, nous, on regarde la télé. Je dis, bon, écoutez, d'accord.
Donc, voilà, c'est clair.
Voilà.
J'aimerais que vous nous parliez de cette société donc, que vous avez créée en 2010, qui vous amène à voyager souvent et longtemps.
Alors, j'avais fait la connaissance de la personne qui est un de mes associés aujourd'hui, qui est un Français de Bordeaux, qui est un amoureux de l'Afrique et qui travaillait beaucoup sur les questions solaires et tout. Il m'avait demandé rendez-vous à la mairie de Toulouse parce que son objectif, c'était d'implanter le solaire à la ville de Toulouse. Et je lui ai expliqué que c'était compliqué parce qu'il y avait des marchés publics et tout le reste. Et en discutant avec lui, et il m'a demandé d'où j'étais. Je lui ai expliqué que j'étais du Congo. Il me dit, ah, mais tiens, mais moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique et tout. Et du coup, on a vraiment accroché. Et on a fusionné une partie de nos activités en sachant que moi, j'ai ma boîte où je fais toujours de la formation et tout le reste, parce que là aussi, c'est un volet que je fais. Mais sur la partie donc, technologie, je dirais, on a fusionné. Et on travaille sur le solaire, donc des villages solaires. On peut installer les panneaux solaires dans un village. On peut installer des produits solaires un peu partout, dans les maisons et tout le reste. Et pourquoi je le fais en Afrique ? Parce qu'en Afrique, pour moi, ça correspond à un besoin. Vous allez en Afrique, au Congo, par exemple, il y a des endroits où la première lumière, elle est, si ce n'est pas une torche ou si ce n'est pas une bougie, la première lumière, elle est à 2 heures de voiture. Vous avez des dispensaires qui n'ont pas de courant. Alors qu'avec un panneau solaire, ils pourraient alimenter leur frigo pour garder des poches de sang, des choses comme ça. Donc, quand on fait du solaire en Afrique, ça fait plaisir de voir, outre le business, ça fait plaisir de voir ce qu'on apporte aux gens, le changement que ça apporte dans la vie des gens. Moi, j'ai eu un village où on a fait avec mon partenaire et il y avait un vieux qui est venu me voir. Il me dit, vous savez, monsieur, c'est la première fois que dans notre place de village, on aura la lumière. Donc les enfants pourront jouer jusqu'à 18, parce qu'il faut se mettre dans la situation de l'Afrique. À 18h, il fait noir. À 18h, on ne voit pas, dans certains coins, on ne voit pas à 10 mètres à 18h. Donc du coup, avec ça, ils pourront rester dehors, ils pourront avoir des activités jusqu'à 21h, 22h. Donc c'est cet aspect-là qui m'a amené vers l'Afrique. Et en faisant du solaire, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un besoin en produits électriques. Du coup, je livre aussi du matériel électrique.
Quels sont vos clients ?
Alors, c'est essentiellement donc, ou des ONG donc, qui implantent ces produits, ou des particuliers, ou des grosses structures qui peuvent être des sociétés qui veulent s'implanter à l'intérieur du pays et tout le reste.
Vous avez un site internet ? Comment on fait pour vous contacter ?
On a un site qui est en construction, mais c'est le groupe MBCI, donc www.groupe-mbci.com. Il est en construction parce qu'on doit y mettre d'autres activités qu'on est en train de faire et surtout différents chantiers qu'on a déjà réalisés.
Vous avez la double nationalité, Jean-Paul ?
Au Congo, il n'y a pas la double nationalité. D'accord. Le Congo d'où je viens, donc la nationalité, elle est exclusive. Donc en devenant français, je suis devenu français à 27 ans.
Vous avez
J'ai perdu la nationalité congolaise.
Voilà.
Donc c'est contradictoire parce que la constitution congolaise dit est congolais toute personne qui appartient à une des tribus qui, en 1960, a composé l'État du Congo. Étant donné que moi, je fais partie de ces tribus-là, je suis de fait congolais d'origine. Mais après, bon, c'est un grand débat. C'est un grand débat actuellement. Je pense qu'on tend vers la double nationalité, ce qui m'arrangerait, parce que pourquoi pas, je pourrais être maire chez moi.
Oui, bien sûr.
Pourquoi pas ?
Évidemment.
C'est peut-être mon ambition, je ne sais pas.
Vous vous sentez autant congolais que français ?
Alors, à quelqu'un qui avait essayé de me titiller en me disant oui, parce qu'il voyait que je publiais beaucoup sur le Congo, oui, mais entre le Congo et la France, je lui ai répondu que pour moi, la France et le Congo, c'est le ventricule gauche et le ventricule droit.
Oui, donc, vous n'êtes pas divisé entre les deux,
non.
Vous avez multiplié.
Voilà, je me sens autant à l'aise en France qu'au Congo et je peux vivre en France comme je peux vivre au Congo.
Et très attaché à Toulouse ?
Particulièrement à Toulouse. Alors, si je dois vivre en France, ça sera à Toulouse parce que, ben, disons que c'est Toulouse qui a fait de moi ce que je suis, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue politique, d'un point de vue militant. Et je suis très, très attaché à cette ville. Ouais. Je suis très, très attaché à cette ville.
Alors, votre épouse et vos trois enfants vivent à Toulouse. Vous êtes très souvent en déplacement, et comme on l'a dit tout de suite, sur des durées quand même assez importantes. Ouais. C'est pas trop difficile pour votre famille ?
C'est compliqué. Après, mère courage, comme j'appelle ma femme. Au fait, quand j'ai connu ma femme, j'étais déjà très militant. Donc, très souvent, j'étais en déplacement pour aller militer à Paris et tout le reste. Donc, du coup, elle m'a toujours connu avec la bougeotte.
Elle avait la couleur dès le départ.
Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui... alors, elle ne fait pas du tout de politique. Ce n'est pas du tout une grande voyageuse et tout le reste. Mais elle m'accompagne dans mes projets, comme moi, je l'accompagne aussi dans sa carrière à elle. Et en ça, je pense que j'ai beaucoup de chance. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que les activités que nous faisons, la politique et tout le reste, c'est des métiers de divorcés. Et oui, parce que vous rentrez à pas d'heure, vous sortez à pas d'heure. Et en plus, quand vous êtes en vue politiquement, forcément, donc tout le monde veut vous parler. Quand je mangeais avec elle dans un restaurant, il y avait trois personnes qui venaient. Ah, mais Monsieur Makingo aussi, Monsieur Makingo. Donc du coup, et puis elle, comme elle est assez discrète comme personne, donc du coup, mais on arrive à trouver donc un compromis. Et quand je suis là, je me consacre à ma famille. Et...
J'allais vous poser la question. Quand vous êtes à Toulouse, qu'est-ce que vous aimez faire ? Vous Alors, aimez aller au cinéma, au théâtre ?
Cinéma, restaurant, moins le théâtre, mais beaucoup le cinéma, restaurant. J'aime bien me promener en ville parce que j'aime bien voir les gens discuter et passer du temps avec des copains. Ça aussi, j'aime bien. Mais c'est essentiellement du repos quand je viens actuellement à Toulouse et je travaille plus quand je suis à l'étranger.
Donnez-moi un restaurant que vous aimez à Toulouse ?
Alors, un restaurant que j'aime à Toulouse. Alors, il y en a plusieurs, mais prenons par exemple un restaurant africain, le Mayombe. C'est un restaurant que j'aime bien. C'est un restaurant où j'ai passé une bonne partie de ma vie, de ma jeunesse. Donc, du coup, j'aime bien ce restaurant. Et en dehors de celui-là, je n'ai pas de choix particulier. Je vais un peu partout. Le Coq d'Or, j'aime bien aussi. C'est tenu par un ami qui est très sympa. Donc.
Qu'est-ce que vous lisez actuellement ?
Actuellement, donc, prolongement un peu de... Outre la politique, parce que je lis beaucoup des livres sur la politique, celui de François Hollande, par exemple, je l'ai acheté et je vais le lire. Mais outre ça, je lis l'Histoire générale du Congo. C'est un très bon livre parce que je me rends compte en lisant ce livre que je ne connaissais pas trop le Congo. Et parce que vous savez, on voyage peu finalement dans les pays africains. Le Congo, c'est grand comme la moitié de l'Union... Non, le 70% de l'Union européenne. Donc du coup, ça va de Londres à Alger et de Paris à Prague.
D'accord.
Donc je connais très peu le Congo. Et avec cette histoire générale, je suis en train de lire comment a été composé un pays avec plus de 244 groupes ethniques différents.
La politique de ce pays, vous la connaissez bien ?
Je la suis de près. Alors, la connaître bien, ça serait peut-être un grand mot, mais je la suis de près parce que ça fait partie de moi aussi, le Congo. J'y travaille, donc je suis la politique de près. J'espère que cette crise, elle va être dépassée parce qu'il y a une grosse crise au Congo, une crise politique, et c'est dommage pour un pays si riche, pour un pays, le premier pays francophone au monde par le nombre de locuteurs et le nombre d'habitants d'ailleurs. Kinshasa, c'est la première ville francophone du monde avec plus de 12 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est dans la misère et ça fait mal. Ça fait mal quand tu décolles à Roissy, tu descends à Kinshasa, tu te rends compte qu'il y a de la misère. Ça ne fait pas plaisir. Surtout quand on a été élu dans une ville riche et qu'on va là-bas, on voit dans les municipalités, les maires ont des problèmes basiques qu'ici, les plus petites communes n'ont plus comme problème.
Avec cette enfance atypique, riche, et cette vie un petit peu aussi à part, vous n'avez jamais eu envie de vous tenter à l'écriture ?
Pour l'instant, non, peut-être que... Quelqu'un m'a déjà proposé, un ami à moi à Toulouse, quand j'ai été élu à la mairie, parce qu'il s'est dit, tu es quand même... Tu as un double record, tu es le premier noir élu à la ville, le premier noir élu à la région, tu as une trajectoire atypique, est-ce qu'on ne peut pas faire un livre autour de ta vie et tout le reste ? Ah, ça m'avait plutôt fait rire, mais qui sait, plus tard, vous savez, je me dis toujours que j'ai plusieurs vies. J'ai une vie de 0 à 20 ans, j'ai une vie militante active de 20 à 40 ans, et de 40 à 60, je suis peut-être dans une vie plutôt entreprise, et qui sait, j'attends peut-être la fin de ma troisième vie pour faire un livre.
Comment s'appelle votre petite fille ?
Chiara.
Vous êtes gaga ?
Disons qu'elle abuse de ma gentillesse.
Je vous pose la question parce que je vous vois très souvent publier sur elle, sur Facebook.
Elle abuse de ma gentillesse.
Je crois qu'elle a l'air très rigolote en plus.
Elle a l'air très rigolote et elle n'arrête pas de parler. Disons que j'ai eu deux garçons qui, en grandissant, ils vivaient leur vie. Moi, je suis derrière eux, ça va, mais là, j'ai une petite fille. Et en plus, quand je suis là, comme je n'ai rien à faire, je la dépose à l'école, je vais la chercher à l'école. Donc, c'est marrant parce que je n'ai pas forcément eu le temps pour les deux autres. Le temps que je lui consacre à elle, entre mon mandat et tout le reste. Donc, je lui consacre beaucoup de temps et c'est rigolo parce que je vis les choses. Elle me pose des questions et tout. Elle a été dire à sa maîtresse, par exemple, que vous savez, mon papa, il ne vit pas avec ma maman. Et elle dit à sa maîtresse, mais vous savez, ils sont toujours amoureux, hein, mais ils ne vivent pas ensemble parce que mon papa, il travaille très loin. Et une fois, elle a dit à sa maîtresse, vous savez, mon père, c'était le maire. Donc, si vous rigolez, il viendra ici. Donc, du coup, c'est marrant. Je vis des choses. Ça me fait rire d'avoir cette petite fille à la maison et elle rend tout le monde heureux.
Jean-Paul, il nous reste moins d'une minute sur cette émission. Je voudrais en profiter pour vous demander si vous aviez un message à transmettre.
Si j'ai un message à transmettre, ça serait un peu à tous vos auditeurs, à tous les Français et à tous les Congolais aussi, pour leur dire simplement que tout espoir n'est pas perdu et pour leur dire aussi qu'il ne faut pas céder aux extrémistes, aux extrémismes plutôt, et qu'il faut toujours penser que malgré nos difficultés, il y a pire, et essayer d'aller vers l'autre. Cet autre, qui soit homme, femme, qui soit musulman, qui soit juif et tout le reste, parce que c'est nous tous qui formons un tout.
Merci. Merci beaucoup,
Jean-Paul. C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.